père de Haut.
Et que le père de Haut était très lié à cette consécration de Saint-Louis-Marie et l'enfant. À tel point que quand on voyait le père de Haut, on disait toujours, ah, c'est l'oraison et Marie. Et c'est vrai, c'était l'oraison et Marie. Et je retrouvais ça auprès de Marthe, d'une façon très étonnante. De sorte que ça ne changeait pas, c'était pas deux spiritualités différentes, c'était la même, profondément, que je retrouvais auprès de Marthe. Parce qu'il y avait cette immolation qui la liait à la petite Thérèse. Et il y avait la consécration à Marie. Et alors on racontait toujours, je ne sais pas, je cherche des détails, que le petit livre, c'est-à-dire la vraie dévotion à Marie, avait été déposé sur le lit de Marthe, on ne sait pas trop comment. Mais partie de ces... de tout ce contexte particulier de Châteauneuf, qui est très touchant, que c'est possible que de fait, Dieu ait voulu que la Vierge Marie, qui comme disait souvent le Père Finet, c'est ici qu'elle vient le plus. Et je ne m'étonnerais pas du tout que Marie veillait sur sa petite enfant infirme. Cette petite enfant qui était clouée sur la croix. Et entièrement clouée sur la croix. Dans la position de l'enfant dans le sein de sa mère. Et donc il vivait la petitesse dans le sens le plus grand. La petitesse évangélique. À travers toute sa sensibilité, à travers tout ce qu'elle était. Elle était in sino mariée dans le sein de Marie. Et elle vivait cette consécration. Et tout était là. Une fois qu'on parlait de la Vierge Marie avec Marthe, on était dans l'unité. Et tout était vu de cette manière-là. Quand je devais prêcher pour les diverses promesses à Châteauneuf, dans la retraite des membres de foyer, je demandais toujours à Marthe si ce que je disais était conforme à ce qu'elle voulait, parce que c'est toujours très délicat. À Châteauneuf, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas de directoire. On vivait, et je comprends, on vivait le mystère de Marthe. C'était ce qui avait de plus simple. Mais quand on doit prêcher, et quand on doit en parler, on aime bien de voir théologiquement où ça se situe. Je lui demandais toujours, et Marthe disait, mais oui, vous avez compris parfaitement le mystère des foyers en remontant à la source, en remontant auprès de Marie. C'était la consécration de Marie, c'était la présentation de Marie au temple. Et c'était tout le temps là où on revenait. C'était Marie au pied de la croix. C'était cette consécration dite d'une manière si étonnante par Saint-Louis-Marie de Montfort, qui était tertiaire dominicain du reste. Et c'est pour ça que je l'aime d'une façon spéciale aussi. Marthe, elle était liée à Saint-Louis-Marie de Montfort. Elle était liée à la petite Thérèse. Et elle faisait comme le prolongement vivant de cela. C'était le mystère de la croix, cette manifestation de la croix, de l'agneau immolé. Et c'était Marie, dans ce qu'elle avait de plus secret, de plus aimant, de plus tendre. Cette première retraite m'avait beaucoup, beaucoup frappé du reste, parce que on était porté par la prière de Marthe. Et on voyait cette chose étonnante que ces prêtres qui venaient en retraite, qui étaient souvent de très bons prêtres, il y en avait dedans des prêtres qui avaient des problèmes très difficiles. C'est pour ça. On sentait un poids au début de la retraite. C'était lourd à porter. C'était pas commode. Puis ils étaient fatigués souvent, comme des bons apôtres. Alors Montmartre. Chacun, elle les portait. Elle les offrait. Et eux revenaient tout autres. Et très souvent, ils venaient voir le prédicateur. Donc, ils venaient me voir pour me dire ce que Marthe avait dit. Pour me dire combien le passage auprès de Marthe avait été quelque chose de merveilleux pour eux. Alors, on faisait une œuvre avec Marthe. C'est ça qui m'a semblé très beau. Et c'est ça qui a fait cette union si profonde avec Marthe. C'est qu'il y avait une œuvre commune avec elle. Silencieuse, j'ai jamais dit à Marthe, je fais la même œuvre que vous. Je n'aurais jamais osé dire ça. Mais profondément, je sentais que Marthe vous portait, vous aidait, qu'on était beaucoup plus instruments de l'Esprit Saint que nulle part ailleurs. Parce que Marthe était là et vous portait. Et on avait après une conversation avec Marthe qui était dans le style de la retraite et dans l'intimité avec elle. À tel point que je n'ai pas hésité à lui dire, mais Marthe, j'aimerais beaucoup venir prier auprès de vous. Pendant que vous vivez la passion de Jésus, je ne savais pas du tout quelles étaient les mœurs, encore une fois, de Châteauneuf. Alors Marthe me dit avec vivacité, « Ah, mais ça regarde le Père. » Alors je me dis, moi-même, j'ai fait une gaffe. Il vaut mieux se taire. Et dans la conversation, Marthe parle de l'union intérieure des âmes, de l'unité si grande que l'Esprit Saint peut faire. Alors je lui dis, « Oui, je comprends, Marthe, c'est pas la peine de venir, donc prier avec vous. Pendant que vous faites la passion, il suffit de prier avec vous et de vous demander de me porter dans votre lien avec Jésus. » Et elle reprend avec la même vivacité. « Ah, j'ai pas dit ça. Si Dieu permet l'union, une présence plus physique, très bien. » C'était tout le réalisme de Marthe. Elle vivait dans une intériorité étonnante. C'était quand même le cœur du Christ présent au plus intime de son cœur. C'était la blessure du cœur, c'était Jésus crucifié, c'était tout le mystère de la croix et de la résurrection. Elle vit dans une intériorité inouïe. Et en même temps, ce contact si simple, si merveilleux, le moindre petit geste d'affection, elle le sentait et elle en remerciait. Alors, j'avais fait cette demande, et puis je me dis, puis quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh, de toute façon, je dirais pas demander au Père Finet, je le connais pas assez, c'est pas la peine, je me tais. Puis le lendemain, le Père Finet qui suivait la retraite, qui la suivait comme retraitant, et Marthe me disait, c'est lui qui suit le mieux la retraite. Et c'est vrai, il grattait dans le fond de la salle. Le Père Finet me dit, viens vous voir, parce que je suis un retraitant, et il faut que je vienne vous voir comme tous les retraitants. Je désire voir, du reste, on a pas mal de choses à parler ensemble. Et puis il commence tout de suite à me dire, eh bien j'ai quand même une commission de Marthe à vous faire. Dites mon père, eh bien Marthe demande premièrement,
les étapes mêmes de la passion.
Alors évidemment, j'aurais aimé rester plus longtemps, mais je voulais pas non plus gêner le père Vinet, lui rester longtemps. Rester, je crois, 2 heures, toujours. Moi, je resterai 10 minutes, pas plus. Alors le père Vinet m'a dit qu'elle prononçait les paroles de Jésus en la croix. Et le père Vinet ajoutait toujours, le jour où ce sera la fin, elle prononcera tout est consommé. Je sais pas si elle l'a prononcé, parce que sa mort a été tellement quelque chose inattendu. Bien qu'elle ait averti la veille, que le démon avait dit « Je te poursuivrai jusqu'au bout ». Et chaque fois qu'elle devait entrer dans cette passion, dans la passion de Jésus, chaque fois elle devait dire son désir de vivre ce mystère et de le vivre le plus pleinement possible. Elle acquiesçait et elle remerciait. Il y avait, je crois, dans Marthe comme un don que Dieu a fait à l'Église, au foyer, c'est évident, en premier lieu, mais à tous ceux qui suivaient des retraites au foyer. Et ils sont nombreux, ceux qui ont suivi des retraites au foyer. Elle était donnée à l'Église de France, à l'Église qui est en France, ça c'est sûr. Elle vivait tous ces combats d'Église, toutes ces luttes. Elle était donnée pour l'Église universelle. Elle vivait pleinement comme une petite enfant de l'Église, avec un souci de rester fidèle à l'Église. De temps en temps, elle demandait des précisions au point de vue théologique. Est-ce que je peux dire ça? Elle demandait des explications. C'était très touchant, du reste. C'était quelquefois réciproque. Moi, j'aimais savoir ce qu'elle pensait sur tel ou tel. Et ce que je disais du prologue et de la présence de Marie debout au pied de la croix. Ce qui était remarquable chez elle, c'est ce côté de précision intellectuelle. Étonnant. Une précision, mais une précision qui n'était pas une précision logique, qui était une précision de la réalité. Dans l'ordre de l'amour. Et en même temps, cette simplicité, cette pauvreté, cette petite enfant qui était toute donnée au bon Dieu. Et quand on restait un certain temps auprès d'elle, on voyait bien, on arrivait bien à discerner dans l'obscurité la couronne d'épines sur son front. Et avant de partir, elle demandait toujours la bénédiction. On récitait un Ave Maria, elle demandait la bénédiction. Et je lui disais toujours, Marthe, je peux baiser votre front. Et elle disait oui. Et après, elle disait merci Père. Elle remerciait avec telle simplicité comme un petit enfant de Dieu. Cette petitesse de Marthe dans la pauvreté et à travers la souffrance, c'est comme une âme qui avait été ravinée par la souffrance. Et plus elle était ravinée, plus on saisissait cette naissance de l'eau et de l'esprit. Plus on saisissait, j'allais dire, la grâce qui jaillissait, la charité, l'espérance, la foi, qui jaillissait directement de son âme, dans cette unité avec Jésus, dans cette unité avec Marie. Je crois que Marthe, prolongeant le mystère de la petite Thérèse, pour nous, Enfin, c'était pas ça du tout. Elle disait carrément non, c'est pas ça du tout. Non, faut pas. L'aspect négatif était très net. L'aspect positif était toujours très nuancé. Et plein de nuances. Elle ne voulait jamais remplacer le prêtre. C'était ça qui avait le plus admirable. Elle ne voulait jamais remplacer le prêtre. Elle était là comme une mère, comme une sœur, qui vous accompagnait, qui vous aidait, qui vous portait dans sa prière. Mais qui n'était pas du tout comme quelqu'un qui aurait eu des lumières extraordinaires en disant « Je vois très bien ce qu'il vous faut, mon père. » Elle n'a jamais dit ça. Elle confirmait quand on lui demandait, qu'on hésitait. Elle disait oui, priez, priez, Dieu vous éclairera. Et elle donnait une confiance alors, une confiance inouïe en la miséricorde. Les prêtres qui avaient des difficultés, qui avaient souffert et qui souffraient, Martin leur redonnait l'espérance avec une force qui dépassait complètement, j'allais dire, le point de vue de ce qu'elle était humainement parlant. Une force qui venait de l'Esprit Saint, qui venait de la Vierge Marie, comme une grande espérance d'amour.
Et alors, c'est quand même très surprenant de voir une femme qui a autant souffert, autant vécu la passion du Christ. Moi, j'ai deux questions à vous poser sur Marthe. C'est la première, est-ce que c'était vraiment nécessaire que Marthe vive tout ça, toute cette souffrance pour l'humanité? Et la deuxième question, c'est quel est le sens profond du mystère de Marthe pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'humanité d'aujourd'hui? Pourquoi Marthe est au XXe siècle? Pourquoi Dieu a voulu Marthe aujourd'hui?
Oui. La souffrance de Marthe, elle a longtemps dans le grand mystère qu'on a déjà vu, du mystère de la croix. C'est dans la lumière de ce que j'ai essayé d'expliquer sur le mystère de la croix. Ouais,
vous avez raison, vous l'avez déjà bien expliqué.
Et c'est ça qu'on doit le voir. Mais c'est bien de le redire, parce que c'est vrai, quand on le voit présent. Oui. C'est pas. On me l'a dit, mais Marthe me l'a jamais dit à moi, mais Père Vinet disait. Le Seigneur lui avait dit que depuis Marie, aucune créature n'avait été aussi liée à la croix. Je crois qu'il faut prendre ça d'une façon qui est tout à fait divine et pas matériellement. C'est-à-dire que Marthe répondait à un appel de Jésus, à un appel de Marie, qui la mettait toute proche. Ça montre que le XXe siècle peut être aussi proche de la croix que Marie n'est proche de la croix. C'est du reste magnifique, ça. Et c'est peut-être ça qu'elle nous apprend aujourd'hui. C'est que nous sommes sensibles à dire qu'il y a 2000 ans que le Christ est là. En réalité, pour le croyant, il est là. Il est vivant, il est là. Et les 2000 ans, c'est notre psychologie, c'est notre manière humaine de regarder les choses. Mais pour le croyant, il est là. Et ça, Marthe donnait cet enseignement-là. Et c'est peut-être ça qu'elle donnait le plus pour notre monde d'aujourd'hui. Nous avons tellement besoin de ça. De comprendre que la distance historique qui nous sépare du Christ, mais dans la foi, n'est rien du tout. Vous voyez, cette distance historique qui joue tellement aujourd'hui, par exemple dans les études exégétiques, on dit comment, au bout de 30 ans, on peut donner un témoignage. Mais dès qu'on se place du côté de la foi, ça ne signifie plus rien du tout. Est-ce que les évangiles, c'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Toute la question est là. Marthe était-elle un instrument de Dieu ou pas un instrument de Dieu? Mais je peux dire que pour moi, elle est un instrument de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Je peux pas le juger pour les autres. Et l'Église, c'est l'Église qui le jugera pour savoir pour l'Église.
Mais elle a rendu le mystère de la croix actuel d'une manière charismatique, même.
Étonnante et merveilleuse dans son silence. C'était pas tellement ce qu'elle disait. C'était son silence d'amour. C'était son offrande. C'était l'accueil qu'elle avait. Ouais, c'était ça la chose la plus bouleversante. On est Et puis je lui ai dit de demander. Et puis au moment où elle devait voir Marthe, elle a eu une de ses paniques. Elle est venue me trouver. Père, je dois aller voir Marthe. Je t'en supplie, venez avec moi. Alors moi j'étais très heureux d'aller voir Marthe une fois de plus. Et donc, je l'accompagne. Et sur la route, elle cueille. C'était une petite étudiante merveilleuse, étonnante. Simplicité, d'intelligence, de spontanéité. Bon, l'étudiante type, quoi. Croyante, oui, croyante.
Comme il faut.
Comme il faut, pas plus. Et alors, elle voyait Marthe. Bah, on l'avait parlé de Marthe. Curiosité, qu'est-ce que c'est que Marthe? Alors, elle cueillait des fleurs sur la route, gentiment, pour lui apporter un bouquet à Marthe. Et Marthe vous apporte ce bouquet. Vous avez quelque chose à dire, du reste, c'était très, psychologiquement, c'était très astucieux. Je vous apporte le bouquet. Alors, Marthe, déposez-le sur le lit, je ne peux pas le prendre. Voilà. Dépose sur le lit, elle me regarde. Vas-y, pose sur le lit. Puis, elle dit, Marthe, il paraît que vous ne mangez pas.
C'est formidable, spontané, brillante.
Il paraît que vous ne mangez pas. Vous ne mangez jamais. Ça doit être bien agréable. Alors, la réponse, Marthe, vous croyez? Vous croyez que c'est tellement merveilleux de ne pas manger? Et la conversation est tout de suite venue, mais vous voyez, si j'avais connu une Marthe, comme ça j'aurais dit Marthe, mais c'est au niveau de petite étudiante, elle n'a pas du tout fait un discours à cette petite étudiante, elle s'est intéressée à ce qu'elle faisait, à ses études, à ses rencontres. Ah, vous avez beaucoup d'amis, alors elle parlait d'amis, alors amis eux ou amis tout court? Et c'était la précision de Marthe pour savoir les diverses relations qu'elle avait. Mais c'était très très simple. Mais en même temps, à travers tout cela, il y avait une présence que cette étudiante a sentie. Parce qu'après, j'ai interrogé sur cela. Elle a dit oui, c'est curieux. Elle dit rien d'extraordinaire. On est dans un autre lieu. On est en dehors. On n'est plus dans la banalité. Il y a autre chose, il y a un autre regard. Et c'est vrai, c'était un autre regard. Et alors, si elle parlait à un prédicateur de retraite, mais c'était tout de suite la retraite. Et il y avait telle ou telle chose sur la retraite.
À chacun, complètement.
De toute façon, étonnante, mais alors... Tout dépend de la profondeur, vous voyez. Mmh. On voit très bien comment. Et ça, c'était très étonnant. Elle touchait ce qui avait peut-être le souci principal dans la vie. L'importance. Et quand on allait à Châteauneuf, on y allait toujours avec des quantités de demandes faites à faire à Marthe de telle ou telle qu'elle l'avait vue à tel endroit et demander de prier pour elle. Alors, on parlait de toutes ces personnes à Marthe. Marthe se rappelait très bien. Dans son temps, elle demandait, tiens, c'est qui ça? C'est qui? Vous voyez, bien là, tout d'un coup, ah oui. Elle demandait, vous voyez, il y avait une espèce de présence. Et une présence qui n'était plus une présence uniquement de la terre. C'était comme une présence du mystère de Dieu, du mystère de Jésus, du mystère de Marie. Mais toujours avec une très grande simplicité. Alors je crois que pour notre monde d'aujourd'hui, Marthe montrait le réalisme de la croix. Mais si facilement on voudrait faire l'économie de la croix, ben je sais bien, certains m'ont dit « Père, vous parlez trop de la croix ». Jamais Marthe m'a dit « Vous parlez trop de la croix ». Je lui ai demandé une fois. Elle m'a dit « Mais père, de quoi pouvons-nous parler d'autre ?» C'était la réponse la plus merveilleuse. Parce qu'elle en vivait. Et elle voyait tout à travers. Là. C'était le mystère. Alors évidemment... Elle n'en parlait pas, alors on pourrait dire, mais pour Marthe, c'était pas ça du tout. Mais elle vivait de la croix, de très attentes en lui demander si on en parlait trop, parce que pour les retraites, j'ai toujours demandé, Marthe, dites-moi si, puisqu'elle entendait des échos, est-ce que les retraitants peuvent vous dire telle ou telle chose qu'ils n'oseraient pas me dire, à vous ils le diront. Mais Marthe m'a jamais dit vous parlez trop de la croix, jamais. Pour elle, c'était le mystère dont l'Église devait vivre aujourd'hui, tellement actuel. Mais une croix qui était une victoire de l'amour, une croix qui était tout entière tournée vers la gloire, pas du tout une croix qui était un dolorisme, il n'y avait pas la moindre marque de dolorisme chez elle, à cause de ce réalisme si fort, hein, dépassant tout de suite la souffrance dans un amour et dans une présence d'amour.
Combien d'années comme ça vous avez prêché à Châteauneuf après le mort ?
J'ai prêché à Châteauneuf, je crois, 17 ans.
Et chaque fois que vous avez pu voir Marthe, à chaque fois, à chaque retraite ?
Chaque fois, on faisait un cadeau merveilleux de voir Marthe une heure, à peu près.
Est-ce que vous avez senti une évolution chez Marthe de... Est-ce qu'elle a changé pendant ces 20 ans, ou elle semblait toujours pareille? Ou est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle souffrait de plus en plus, ou qu'elle attachait de plus en plus d'importance à tel aspect du mystère? Est-ce qu'elle était prise par des choses?
On pourrait dire qu'il y avait une croissance, dans le sens que on sentait l'unité avec elle toujours plus grande, ça. Je l'ai senti très fort. J'ai senti très fort aussi sa proximité au moment où il a fallu décider pour la communauté Saint-Jean. Où elle l'a prise vraiment à cœur. Et avec eux. Parce que le père Finet me disait toujours, les deux retraites où elle souffre le plus, c'est la retraite des prêtres et la retraite des membres des foyers. C'était toujours les deux retraites où elle portait le plus. Et comme pendant un certain nombre d'années, je prêchais les deux retraites, j'étais donc bien placé. Alors, la proximité, c'est vrai, et que on sentait la souffrance augmenter. Il y a eu des moments vers la fin où vraiment Marthe a souffert terriblement. Et le père Finet lui-même me l'a dit, hein. Il me disait, si vous pouvez l'aider, moi je ne peux plus rien. Si vous pouvez l'aider, n'hésitez pas. Mais...
C'est comme la petite Thérèse, elle avait des doutes.
Elle a eu des moments terribles à la fin.
Sur le sens de cette doute.
Sur le sens de sa vie, sur le sens de sa présence auprès des foyers. Se demandant si vraiment elle devait rester là. Si ça avait encore un sens. L'inutilité de sa vie. Je crois que les tentations du démon étaient très fortes dans ce sens-là. Très très forte pour montrer que c'était tout à fait inutile, toutes ces souffrances, ça ne servait à rien, les gens continuaient de mener une vie impossible malgré sa prière. Il y avait des points qui justement pourraient dire à ce point de vue-là qu'il y a eu une croissance à la vie de Marthe dans l'obscurité de la foi, ça, je crois. Mais ça a dû être... Je ne connais pas assez le développement de la vie de Marthe. Il y aurait eu le père Finet qui aurait pu le dire. Je crois qu'il y a eu des périodes, et ça devait revenir. Moi, j'ai connu une période, quand je suis passé, où c'était très fort, très très fort. Et le père Finet m'avait averti du reste. Et on sentait très bien qu'à ce moment-là, c'était très rude. C'était quelque chose qui la dépassait complètement et où elle suppliait qu'on prie pour elle, pour ne pas pour rester fidèle. Il y a alors une croissance, je dirais une pénétration plus grande, toujours plus. C'est plutôt ça, c'est pas une évolution. Parce que la direction était d'une netteté, toujours. Nettement dans le même sens, mais comme si l'amour s'enracinait de plus en plus en elle, et où elle était toujours plus présente. Et alors une soif du retour du Christ. ça se sentait, elle était éreintée. Mais au bout d'un certain temps où j'étais là, j'entends Marthe qui me dit, mais avec une force. Mais père, quand va-t-il venir? Moi, c'était avec un tel réalisme que, bêtement, j'ai cru que c'était le père Finet qu'elle voulait qu'il vienne, parce que je savais qu'il devait venir. Alors je lui dis, est-ce que vous voulez que j'aille le chercher? Et Marthe alors dit en riant, mais père, non, Jésus, Jésus, quand va-t-il venir? Comme si ce qu'elle souffrait devenait insupportable et qu'elle ne pouvait plus vivre ça. Alors une soif de la venue de Jésus.
Et elle pensait, d'après ce que disait le père Finet, lorsqu'elle parlait que l'Église vivrait une nouvelle Pentecôte d'amour, comment est-ce que vous interprétez ça, cette prophétie de Marx ?
Cette nouvelle Pentecôte d'amour, je crois qu'elle a considéré que la nouvelle Pentecôte d'amour, c'était ce renouveau dans l'Église. C'était déjà un peu les foyers qui annonçaient ça. Parce qu'au fond, la spiritualité des foyers, je l'ai prêché plusieurs fois du reste. Et je demandais toujours à Marx si c'était bien ça. C'est la première épître de Saint Jean. Voyez de lumière la doctrine auquel Marthe tenait énormément à cela.
Ah oui, elle parlait des trois sagesses là.
Ah oui, elle parlait des trois sagesses. Et elle tenait. Elle voulait cela.
Racontez-nous l'anecdote.
Elle. Voyez de lumière. Voyez de charité. Et voyez d'amour. Je me souviens de ce prêtre qui était venu la voir de la part de Rome, c'est un moment où on parlait du statut des foyers. Et alors il avait objecté à Marthe en disant, mais charité, amour, c'est la même chose. Alors Marthe avait donné cette explication en foyer de lumière, la doctrine. Il faut prêcher la doctrine. À moi, mais le père Finet l'a dit plusieurs fois. Marthe tient beaucoup à ce que vous soyez là et que vous veniez parce que vous maintenez la doctrine. Et elle aime cela. Elle veut que vous donniez cette doctrine et que vous la donniez pleinement, en toute liberté. Voyez de lumière. Voyez de charité, la charité fraternelle. Et amour, le retour vers le Père. Dieu est amour. Alors, elle traduisait cette manière-là pour qu'on comprenne bien ce double mouvement de la charité fraternelle et ce retour vers la source, sur lequel elle insistait beaucoup, parce qu'elle trouvait que c'était absolument nécessaire. Oui, Marthe avait un sens de la doctrine. J'ai cité cette remarque qu'elle m'avait faite, vous êtes plus utile à l'Église. Et c'était quelque chose de très pensé, ça. Vous êtes plus utile à l'Église en enseignant la philosophie qu'à l'en prêcher à des contemplatifs. C'est pas du tout qu'elle considérait que c'était rien de prêcher aux contemplatifs, mais elle considérait que l'Église était plus en péril par rapport à la doctrine.
Vous avez parlé des trois sagesses un jour.
Oui, un jour, elle parlait des trois sagesses. C'est-à-dire, j'en avais parlé, et elle m'en a reparlé. Parce qu'elle disait tout le temps, ce qui est merveilleux dans ces trois sagesses, c'est que ça met tout en ordre. Et le père Finet, du reste, avait rapporté une fois, c'est ce que Marthe dit du père Philippe, c'est qu'il met tout en ordre. C'est qu'avec lui, les choses sont nettes et bien précises. Et elle revenait sur les trois sagesses. Il faut ces trois sagesses. La sagesse philosophique, c'était d'autant plus étonnant. D'entendre cette petite femme, cette personne qui avait si peu de... Bon, c'est vrai. Mais il y avait une intelligence très pénétrante, très philosophique. Non, elle était réaliste, alors là, d'un réalisme extraordinaire. Ça lui sait pas de lui raconter des histoires. La philosophie, la théologie et la mystique. Et elle tenait ça. Elle tenait profondément. dit, mais père, vous avez beaucoup écrit, mais vous n'avez jamais écrit sur la Sainte Vierge. C'est pas bien. Alors le père Caracou s'est excusé en disant, oui, c'est vrai. Alors, il s'est mis à écrire sur la Sainte Vierge. Il a envoyé tout de suite son bouquin à Marthe. Et quand Marthe l'a revu, Marthe lui dit, mais père, vous êtes pas beaucoup foulé. Vous auriez pu faire quelque chose. Un peu plus digne de vous. Elle avait compris que de fait, fallait parler de la Vierge Marie autrement et plus profondément. Tandis que Viens vite du Père de haut, elle n'a jamais dit ça. Elle avait tout de suite senti qu'il y avait... Alors ça, c'était très significatif parce que le Père Caricou, oui, il avait parlé de la spiritualité, mais au fond, il restait très fort. À un niveau de théologie scientifique. Tandis que le père Thoreau, lui, c'était la théologie mystique. Avant tout, et en premier lieu, il aimait la théologie scientifique, mais il n'enseignait pas, il n'apprêchait pas. Vous voyez, on voyait très bien que Marthe, là, avait senti très très nettement la différence, et que c'était